Oui.
Voilà, l'enregistrement commence. Donc, et on commence le cours. Donc, après nous être présentés, je voudrais juste vous présenter le cours, pas juste. Ce soir, donc, nous allons commencer le cours sur la théologie des sacrements. Les sacrements, nous verrons que le titre peut s'adapter suivant les situations. Et je voudrais d'abord, avant de rentrer vraiment dans le sujet qu'est-ce qu'un sacrement, d'abord vous dire où nous allons. Donc, c'est une sorte d'agence de voyage qui vous permet de comprendre où vous allez dans ce voyage. Et donc, le cours sur les sacrements, on l'appelait autrefois dans la faculté de théologie le traité des sacrements. Et ce cours était généralement divisé en deux parties, si vous voulez, en deux moments principaux. Une théologie sacramentaire qui a trait au sacrement fondamental, et puis une théologie sacramentaire particulière qui concernait tous les sacrements, chaque sacrement. Donc ce que nous allons faire ce soir, c'est de traiter assez rapidement, mais pas moins de manière dense et fondée, la première partie. C'est-à-dire la théologie sacramentaire fondamentale. Nous essayer de répondre à la question du plan qui vous a été donné, qu'est-ce qu'un sacrement? Donc nous allons le voir et rentrer peu à peu dans la compréhension de comment on est arrivé à retenir certains gestes, comme des gestes ayant une dimension sacramentelle, étant des sacrements, et d'autres aspects ayant une dimension sacramentelle plus large, comme les bénédictions, comme d'autres signes liturgiques. Et donc, nous verrons d'abord comment on est arrivé à les définir, pourquoi on a défini sept, et puis nous verrons quelle est la manière de les appréhender dans une vision plus large, mais néanmoins fondamentale, de la vision des sacrements. Et puis, à partir de la prochaine fois, donc le deuxième cours, à partir du deuxième cours, nous allons rentrer dans justement la théologie sacramentaire particulière. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous suivons pas à pas tous les sacrements, en vérité, tous les sacrements, et nous partirons justement des sacrements qu'on appelle de l'initiation chrétienne. Vous entendez bien, là, déjà quelque chose à retenir, et puis nous le verrons de plus près par la suite. On parle de sacrement de l'initiation chrétienne. C'est une notion assez récente, la notion de initiation chrétienne, quand on parle des sacrements, une notion qui commence à apparaître dans les années, à proprement parler, pour parler de ce sacrement des années 50, mais qui avait déjà été reçu, par exemple, dans le dictionnaire de l'Académie française, et puis par la suite par les différents mouvements liturgiques, le mouvement liturgique et le mouvement biblique, et la théologie en tant que telle, qui voulait parler des sacrements. L'histoire aussi avait commencé à parler de l'initiation chrétienne. Ce qui est assez important, c'est que cette expression-là, qui s'est cherchée pendant quelques siècles, et puis qui a été retenue comme opérante et intéressante pour comprendre ces sacrements, a été retenue dans un rituel, et donc dans un livre d'église destiné à la célébration des sacrements. Et donc, il a été retenu, cette expression, dans le rituel de l'initiation chrétienne des adultes. Donc, vous voyez, un rituel a pris ce mot-là, nous le verrons de quelle manière quand nous parlerons de ce sacrement. Mais l'intéressant, c'est que quand on parle de sacrement de l'initiation chrétienne, il faut toujours parler, s'il y a une notion qui est au singulier, initiation chrétienne, il y a des sacrements de l'initiation chrétienne, donc du coup au pluriel. Ça veut dire que c'est comme le jeu des poupées russes, je peux dire, à l'intérieur de cette notion. Qu'est-ce qu'on comprend? On comprend qu'il y a le baptême, la confirmation et l'Eucharistie. Donc, naturellement, ces trois sacrements sont perçus de manière différente si on les adresse à un adulte ou bien s'ils sont adressés à un enfant, un bébé ou un jeune adulte ou un adolescent, vous voyez. Donc, je voudrais bien souligner, nous parlerons des deux aspects, mais je voudrais bien souligner que la théologie catholique retient bien aujourd'hui que les sacrements de l'initiation chrétienne sont d'abord, du point de vue théologique, ont une valeur quand ils sont adressés à des adultes. Vous comprenez pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'un adulte qui peut d'abord faire la demander à devenir chrétien, et il n'y a qu'un adulte qui peut répondre de manière consciente à l'initiation qui lui est faite pour entrer dans cette initiation à la foi chrétienne. Alors qu'un bébé, nous le verrons, doit quelque part attendre de grandir pour comprendre et pour adhérer à la foi qu'il a pu recevoir au moment du baptême. Et donc, il faut toujours tenir compte que quand on parle d'initiation chrétienne, bien sûr, cela regarde en premier lieu les adultes, mais regarde aussi, en fin de compte, les personnes qui ont reçu le baptême en tant bébé, puis en ayant été confirmées adolescents et peut-être ayant reçu la communion encore enfant. Il y a un autre problème qui se pose quand nous parlerons d'une institution chrétienne et des sacrements d'une institution chrétienne, c'est que, et ça c'est un problème qui a perduré dans toute l'histoire, mais qui est encore présent aujourd'hui dans la pratique pastorale, c'est que généralement ces sacrements sont perçus comme il y a un ordre, baptême, confirmation, Eucharistie, mais que la pratique pastorale parfois amène à faire vivre l'Eucharistie, la première communion, avant la confirmation. Nous verrons que ça peut poser un problème théologique, notamment du point de vue œcuménique, mais nous verrons qu'on peut trouver une solution pastorale et théologique dans la mesure où on tient pour ces sacrements qu'ils soient reçus en tant qu'adulte, pas trop de problèmes, mais quand on a reçu le baptême en tant que bébé, on peut tenir cette unité et cet ordre, même s'il y a eu des ordres, on peut le tenir avec un horizon eucharistique, dans la mesure où on pense que l'Eucharistie achève l'initiation d'un chrétien et que l'Eucharistie entretient la foi reçue au baptême en étant, je vous fais remarquer, déjà l'un des sacrements qu'on réitère, c'est-à-dire qu'on célèbre plusieurs fois et autant qu'on le veut dans la vie, alors que le baptême et la confirmation sont reçus qu'une seule fois dans la vie. Nous verrons pourquoi l'Eucharistie, on la célèbre plusieurs fois et pourquoi baptême et confirmation sont reçus une seule fois dans la vie. Et donc après ces sacrements, baptême, confirmation, Eucharistie, donc naturellement vous avez compris pourquoi de l'initiation chrétienne, parce qu'ils inaugurent la vie chrétienne, donc sont eux qui marquent la vie en tant que chrétien, et que si on n'est pas baptisé, on ne peut pas être ordonné prêtre ou diacre ou évêque, et puis si on n'est pas baptisé, on ne peut pas célébrer un mariage chrétien, au moins si au moins un des deux conjoints n'est pas baptisé, on ne peut pas célébrer un mariage chrétien. Et puis si on n'est pas baptisé et si on n'est pas eucharistié, on peut pas, en principe, hein, mais on verra les exceptions, recevoir la réconciliation, et ainsi de suite. Ouais, donc comment les trois premiers sacrements, baptême, confirmation, eucharistie, sont extrêmement importants. Je signalerai aussi, et c'est une petite comment dire ouverture œcuménique que je vous fais là. Sachez que, en fin de compte, quand on regarde les sacrements ou les gestes sacramentels du point de vue de l'œcuménisme, des relations que nous avons avec les protestants et les orthodoxes, eh bien, on peut constater que ce sont ces trois sacrements qui sont reconnus par toutes les trois confessions. Et donc, après, les autres sont moins perçus, par exemple, par le monde protestant. On pourra comprendre pourquoi par la suite. Donc après ces trois sacrements, dans l'ordre, nous avons le sacrement de réconciliation, ou ce qu'on appelle parfois la confession. vu que les expressions confession, réconciliation peuvent être des expressions qu'on peut retrouver. Aujourd'hui, on aime bien tenir les deux et peut-être même parler plutôt de réconciliation. Confession est un terme, nous le verrons, assez typé d'une époque précise, du Moyen Âge. Bien, autant les trois premiers sacrements connaissent une ancienneté assez importante. Ils sont pratiquement célébrés dès le début de la vie de l'Église et de l'expérience chrétienne, au moins le baptême et l'Eucharistie. La confirmation, il faut attendre 3 siècles presque pour qu'ils sortent comme vrai sacrement, comme geste sacramentel. Mais par contre, la confession ou la réconciliation, il faut attendre le Moyen Âge pour qu'ils soient reconnus comme un sacrement. Voyez, entre les origines du christianisme et le moment où on commence à parler de confession, il y a eu plutôt des formes de réconciliation dans l'Église, au sein de l'Église, pour les personnes qui avaient pu commettre des péchés graves. Mais il n'y avait pas une pratique de la réconciliation réitérée, comme nous la connaissons aujourd'hui et comme on commence à la connaître à partir du Moyen Âge. Eh bien, ce sacrement, vous entendez bien, est là pour raviver la grâce reçue par les sacrements de l'initiation. Donc, vous voyez, c'est pour cela qu'il y a cet ordre-là. Et c'est pour cela que ça peut être problématique, mais je le dis tout simplement, et puis on pourra réagir si vous voulez quand on parlera de la réconciliation de la confession. C'est pour cela que ça, à mon avis, ça peut poser problème quand on demande à des enfants qui doivent recevoir la première communion de célébrer la confession avant ou la réconciliation avant. Pourquoi? Parce qu'en vérité, ils n'ont pas encore terminé leur initiation. Et alors, c'est toujours un peu gênant de situer un sacrement qui, par contre, est là pour justement raviver ce qu'on a reçu dans l'ensemble des sacrements de l'initiation. Après le sacrement de réconciliation, nous avons les grands choix de la vie, si je peux dire. Il y a le mariage, le sacrement du mariage, hein, et le sacrement de l'ordre. Vous voyez, il y a les deux sacrements. L'un dit plutôt un état de vie, mais l'autre aussi, en vérité, le sacrement de l'ordre. Mais si le mariage est moins perçu comme un sacrement qui structure l'Église, vous voyez, il n'y a pas besoin d'être marié pour structurer l'Église, alors que le sacrement de l'ordre, là à nouveau, vous entendez l'ordre, le sacrement de l'ordre au singulier, mais dans ce mot-là, dans cette expérience-là, il y a 3 gestes sacramentels. Il y a l'épiscopat, le sacrement pour l'évêque, l'ordination pour l'évêque, pour le presbytre et pour le diacre. Donc vous entendez bien qu'il y a là pas une multiplicité, mais une richesse de la perception du sacrement en tant que tel, suivant les ministères que l'on exerce. Eh bien, ces ministères, structures, sont au service, disons plutôt, de l'Église. C'est pas que le mariage est le moins, attention, mais n'est pas, comment on pourrait dire ça, n'est pas essentiel pour la vie de l'Église et pour la structuration de l'Église. Mais les deux disent, le mariage comme l'ordre, disent un état de vie, un choix de vie qu'il faut faire à un moment donné de la vie. Bon, je ne veux pas trop anticiper ce qu'on dira, mais sachons, je le rappelle très rapidement, que si notre théologie catholique a, pour le moment, je dis bien pour le moment, on parlera de ce pour le moment, mais si pour le moment a retenu, a opposé presque l'ordre au mariage, au sens que le mariage permet justement l'union entre un homme et une femme, la pratique dans l'Église latine en Occident, à un moment donné de l'histoire, je ne vais pas trop précéder ce qu'on va voir par la suite, a décidé qu'un prêtre ne devait pas se marier. Donc, vous voyez que le célibat d'un prêtre marque une sorte de, pas opposition, mais de situation différente. Mais rappelons-nous que les chrétiens d'Orient, par exemple, les orthodoxes, mais aussi les chrétiens d'Orient catholiques, hein, ceux qui célèbrent un rite oriental et étant catholiques, les prêtres peuvent être mariés. Donc, vous voyez, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas d'exclusion, voilà, plutôt, c'est le mot que je cherchais. Il n'y a pas d'exclusion entre une vie de mariage et de couple et le fait d'exercer un ministère dans l'Église. Vous voyez, on peut être prêtre et marié. Donc, ça, c'est important de le souligner. Chez nous, pour des raisons canoniques, pour des raisons disciplinaires, hein, pas pour des raisons sacramentelles, j'insiste, on a fait le choix de demander le célibat aux prêtres. Donc, mariage, ordre, et puis donc, sacrement de l'onction des malades, hein, sacrement de l'onction des malades. Là où l'onction de malades, là aussi, nous l'avons toujours connue, et peut-être que dans certaines pratiques qui sont quasi des abus, le sacrement des malades a été appelé donc l'extrême onction, ce qui faisait extrêmement peur. On le recevait en vérité une fois dans la vie, au moment de mourir. Alors qu'aujourd'hui, le Concile a redécouvert comme un sacrement qu'on peut réitérer si on vit un état de maladie, si on vit dans une maladie qui perdure, vous voyez. En plus, l'espoir de vie a augmenté, donc du coup, on peut vivre des situations de vieillesse très difficiles qui demandent de pouvoir faire vivre le sacrement des malades. Donc, vous voyez, le sacrement des malades est le sacrement qui accompagne la maladie, la situation de fragilité du point de vue corporel ou pas seulement corporel. Et donc là, avec tout ce que je viens de dire, nous couvrirons les 8 séances après celle-ci. Hein, donc, celle-ci est la première, puis il y a 8 séances avec ces différents thèmes, ces différents sacrements. Et puis la dernière, la dixième, nous parlerons des obsèques chrétiennes. Alors, pourquoi nous parlerons des obsèques? Vous le savez, vous le comprenez, les obsèques ne sont pas un sacrement, ce qui nous permet déjà de repérer que les sacrements sont adressés à des vivants, pas à des défunts. Donc, il faut qu'il y ait une conscience et une présence dans ce que l'on célèbre, dans ce que l'on vit dans les sacrements. Et donc, ces sacrements, les obsèques, en vérité, pourquoi on le met à la fin du parcours sur les autres sacrements? D'une part, je le dis tout simplement parce que l'idée est venue de vos prédécesseurs. À un moment donné, après peut-être un an où j'enseignais, ou 2 ans où j'enseignais, les étudiants du CIF ont dit, mais j'aimerais bien que vous parliez aussi des obsèques. Et donc, c'était une demande qui venait des étudiants, et je pense que c'était une bonne demande. Et j'acceptais pour 2 raisons. L'un, parce qu'effectivement, les obsèques chrétiennes sont par excellence, on pourrait dire, le compendium, la somme de toute la vie sacramentelle d'une personne. Et elles mettent en œuvre, elles soulignent qu'une personne s'est nourrie des sacrements, a vécu dans les sacrements, et donc les sacrements ont jalonné sa vie jusqu'au moment du trépas, jusqu'au moment de la Pâque, par la mort et pas. Voilà, en attente de la résurrection. Eh bien, donc il y a quelque chose d'extrêmement important dans les obsèques. Et puis, parce que les obsèques, pour les obsèques, on fait de plus en plus référence, on fait de plus en plus appel aux laïcs. Et donc, on demande que des laïcs officient les obsèques. Donc, c'est important que vous soyez préparés, peut-être qu'un jour on vous demanderait. On vous demandera que vous soyez conscient de ce que ça veut dire officier à des obsèques. Qu'est-ce que sont les obsèques? Quelle est la cohérence liturgique et quel est son sens? Et je pense que c'est important que vous en soyez conscient. Et puis, parce que les obsèques, un peu comme le mariage, un peu comme parfois le baptême des petits-enfants, sont des rites de passage, comme on les appelle, dans la société très importants. Peut-être que souvent des gens qui sont très loin de l'Église participent à une célébration, je dis, du mariage, tout en n'étant pas à proprement parler croyants, mais que le témoignage des mariés, la célébration liturgique, ainsi de suite, pose ou les sollicite dans leur positionnement, s'ils ont quitté la foi, s'ils doivent la redécouvrir, ainsi de suite. Voyez. Donc ces rites de passage, c'est plutôt des rites sociaux presque, hein, à l'intérieur même d'une célébration sacramentelle, deviennent des lieux très intéressants d'annonce ou de réannonce de l'Évangile à des personnes qui peuvent être loin. Ainsi les obsèques. Vous voyez bien que vous avez sûrement participé une fois ou l'autre à des obsèques, mais les obsèques, on va aux obsèques en retrouvant des gens de toutes sortes de provenances et de situations. Et donc, ça peut être un lieu à nouveau très intéressant d'évangélisation, voilà, au vrai sens du terme, ou d'annonce de l'Évangile. Donc voilà pourquoi nous parlerons des obsèques en fin de parcours. Comment nous allons travailler le cours? Donc, quelle est la méthode que nous allons employer? Donc, nous aurons toujours, en gros, la même méthode. Je ne dis pas que vous pourrez prendre le pilote automatique, mais presque. C'est-à-dire pas au début, mais à la fin, vous pourrez tout simplement comprendre comment on peut penser les sacrements. Et si vous devez restituer ce que vous avez entendu, ça vous sera facile. Donc la méthode que j'avais employée est celle que j'ai apprise en vérité. Je fais, comme dirait Saint Paul, je vous transmets ce que moi-même j'ai reçu. Hein. Et donc j'ai appris à faire de la théologie des sacrements tout d'abord à partir de l'histoire. C'est-à-dire de la manière dont les gestes, ces gestes sacramentels, les sacrements en tant que tels, ont pu évoluer dans l'histoire. Je dis toujours avec une petite blague, mais qui n'est pas tout à fait une blague, vous comprendrez pourquoi, que si Jésus devait venir à une messe que nous célébrons dans nos paroisses, il ne comprendrait rien du tout. Ça veut dire que entre la scène de Jésus et notre messe, il y a quelque chose qui s'est passé quand même, vous voyez. Et donc pourquoi on est passé d'un geste juif, tout simple, plus ou moins, la Pâque juive n'est pas si simple que ça. Mais disons, un geste rituel juif, on est passé à une Eucharistie chrétienne, vous voyez. Ou pourquoi on est passé de baptême qui ne demandait pas trop de préparation à un baptême qui demande aujourd'hui une préparation catéchétique, d'initiation, telle que nous le verrons. Ouais, tout ça, je donne beaucoup de prix à la dimension historique de l'évolution des sacrements. Pourquoi? Parce que, et je ne sais pas si vous partagez cela, mais je dis pas que je suis inquiet. Qui suis-je pour pouvoir être trop inquiet? Je suis trop petit pour l'être. Mais il est évident qu'aujourd'hui, notre société manque de mémoire et manque de capacité de voir l'épaisseur historique des événements qui adviennent. Et donc, nous risquons aussi en catholicisme et en christianisme tout court, qu'on soit orthodoxe ou protestant, de perdre de vue d'où nous venons, comment nous sommes constitués et d'où viennent nos traditions chrétiennes, liturgiques, sacramentelles. Donc, vous voyez, donc c'est important que par l'histoire, qui est le plus possible objective, hein, une histoire, on ne peut jamais faire d'histoire complètement objective, mais qui essaye de travailler sur une documentation prouvée. Eh bien, grâce à l'histoire, nous pouvons en gros dire comment s'est constitué et qu'est-ce que c'est important dans un sacrement, qu'est-ce que c'est un peu relatif, et qu'est-ce qu'il peut changer encore et qu'est-ce qu'il peut, par contre, qu'est-ce qu'il doit rester dans un geste, d'un sacrement particulier. Donc, l'histoire dans un premier moment, donc chaque cours pour chaque sacrement, nous verrons comment le sacrement s'est constitué. à partir des pratiques néo-testamentaires jusqu'à, quand on les connaît, jusqu'à nous aujourd'hui, les grands moments, on ne va pas trop s'arrêter, mais on va faire comme les archéologues des carottages pour voir où les choses changent et comment elles changent. Et puis, en un deuxième moment, en gros, la première heure, ce sera l'histoire. La deuxième heure, on va rentrer de manière très claire dans les rituels des sacrements. Qu'est-ce que c'est un rituel? Le mot rituel, pensez à un livre. J'en ai pas ici à côté, mais je vous le montrerai la prochaine fois. Pour célébrer un sacrement, il y a des livres liturgiques qu'on appelle les rituels, c'est-à-dire les livres qui indiquent les rites à accomplir, les paroles à dire, les gestes à faire, les personnes à convoquer, les ministres qui sont concernés, ceux qui accompagnent les ministres, ainsi de suite. Donc, le rituel, nous allons, dans la deuxième partie, rentrer dans le rituel en tant que tel, ou du baptême des adultes, ou du baptême des enfants, ou de la confirmation, ou encore de l'onction des malades, et ainsi de suite, tous les rituels. Alors, sachez, je dirais, ce n'est pas que votre privilège, mais je voudrais vous prendre conscience que c'est un choix. C'est-à-dire, l'idée, ce n'est pas de théoriser sur les sacrements, mais de voir comment ils sont célébrés et donc de comprendre quelle est la théologie d'un sacrement. Vous voyez, c'est différent. Je ne parle pas d'une perception de préconçue théologique, mais je pars, je regarde comment la célébration se fait, qu'est-ce que les rituels nous disent, comment ils demandent aux personnes de vivre les sacrements. Et donc, à partir de là, nous pourrons dire quelle est la théologie, quelle est la valeur d'un sacrement. Et donc, généralement, ces rituels ne sont pas accessibles aux laïcs. Même parfois, des étudiants me disent, même les prêtres ne connaissent pas trop les rituels. Donc, vous voyez bien que c'est une chance pour nous de pouvoir les ouvrir, les lire. Je partagerai avec vous des documents qui sont extraits de ce rituel, donc on pourra y travailler dessus. Donc, première partie de l'histoire. Deuxième partie, les rituels qui nous font rentrer dans l'intelligence des sacrements en tant que tels. Voilà. Quelle est la méthode? Alors, quelle est la méthode? La méthode est celle, naturellement, chaque fois, pour le cours, on vous enverra des documents. Un plan du cours qui essaie de détailler les grandes lignes de ce que je vais dire. Je prendrai la parole, bien sûr, mais je vous demanderai vraiment votre collaboration. C'est-à-dire, je le dis d'emblée avec beaucoup de sincérité, je suis un moine, je ne suis pas un pasteur, je n'ai pas de pratique pastorale, voyez? Je n'ai pas exercé de pastoral dans une paroisse. C'est vous qui venez de lieux, en principe, je pense tous, hein, venez des expériences, vous vivez dans des lieux de paroisse, paroissiaux, ou de mouvements, je ne sais pas. Et donc c'est vous qui devez quelque part m'alerter sur les questions très pratiques et très concrètes d'un sacrement, de l'autre, voyez. Donc c'est vous qui devrait quelque part réagir face au questionnement que le cours peut soulever. Et vous pouvez apporter aussi des connaissances que j'ai pas. Donc voilà, le cours devra, j'espère, se construire ensemble, voilà, par vos remarques, vos questions, vos mises en garde sur certaines affirmations ou ce qui manque par rapport à ce que je n'ai pas dit. Donc pour le faire, c'est pas commode de le faire en visio, je le sais. Quand on est en salle, ceux qui ont participé au cours en salle savent que c'est plus facile parce que je n'hésite pas à laisser parler les personnes qui sont en salle. Pour la visio, je vous propose ceci, c'est que je prendrai la parole en un premier moment, et puis je laisserai toujours une 10 minutes avant la fin de l'heure où je parle Pour vous donner la parole à vous, donc vous pouvez réagir et nous pouvons débattre ou, voilà, de la manière dont je viens de dire. Ça, c'est très important et même, donc il y a ça. Et puis n'hésitez pas aussi, entre un cours et l'autre, donc dans la semaine qui sépare un cours et l'autre, peut-être de me questionner en envoyant un email, disant voilà, je voudrais. J'ai pas eu le temps, ou j'y ai pensé après coup, vous pourriez davantage parler de ça ou de ça. Et donc, du coup, je pourrais effectivement reprendre le cours à partir des questions qui sont les vôtres. Pour pouvoir m'écrire, je vous donne là, dans l'espace où on peut dialoguer, et vous me dites si vous le recevez, mon adresse email. Et vous pouvez m'écrire, est-ce que vous l'avez reçu? Vous l'avez reçu? Bon, parfait. I comme Isaiah, Gazola comme mon nom de famille, icp.fr. Voilà. Donc, puisque vous qui suivez le cours le soir, on n'aura pas l'occasion de se rencontrer, n'hésitez pas à, si vous le désirez, hein, c'est pas, de me solliciter en me disant, voilà. Je suis le cours OSIF, je suis en train de suivre le cours OSIF, et donc voilà, vous pouvez. Ça, c'est pour la méthode. Alors, maintenant, je vous propose, nous arrivons à 20h53. Voilà une autre chose que nous ferons. Il y aura toujours une pause entre les 2 heures, de manière à ne pas. Sinon, vous vous épuisez à entendre. Moi, je m'épuise à parler. Donc, je vous propose de faire une 10 minutes de pause. Oui, 55. On se retrouve à 21h05. Ça y est, c'est bon? C'est bien, je ne me suis pas brouillé dans les heures. On a 21h05, vous serez là et je serai là. Donc, et on reprend le cours. Hein? Parfait. Voilà, nous continuons notre cours. Et pour le faire, je vais donc partager, probablement vous l'avez sous les yeux, le document qu'on a envoyé pour ce cours, justement. Et donc, je vais repartager le. Vous le voyez, le cours, hein, le document. Donc, nous allons essayer de rentrer dans la perception de ce qu'est un sacrement. Et tout d'abord, avec cette affirmation, les sacrements sont au cœur de la liturgie. Nous avons là déjà, je vous propose dans un premier moment de comprendre les mots en tant que tels. D'où vient par exemple le mot liturgie et le mot sacrement en tant que tel. Alors je vais vous partager une sorte de document qui permet de reprendre ceci et vous faire comprendre que derrière le mot sacrement, il y a d'abord, tout d'abord, un mot grec, qui est le mot mysterion, hein, mysterion, qui se traduit généralement par mystère. C'est un mot, ce mot est un mot qui est pré-chrétien, donc il fait partie de la civilisation grecque. Et donc le mot en tant que tel était le mot qu'on employait pour parler des pratiques exercé par les religions à mystère, c'est-à-dire ces pratiques rituelles, religieuses, de groupes philosophiques ou non philosophiques, qui à travers des récits mythologiques faisaient rentrer les personnes qui participaient, qui adhéraient à ces groupes, à des initiations corporelles et pas seulement corporelles. Et donc on sait que ce mot était employé pour dire quoi? Dire le fait que ceux qui participaient à ces réunions, plutôt à ces pratiques rituelles, ne devaient pas révéler ni ouvrir la connaissance de ce qu'ils avaient reçu aux autres, à l'extérieur. Donc le mot même, vous voyez, il y a dans le grec, il est composé d'une racine qui est la première partie, muo, donc c'est le verbe justement faire silence, ne pas parler, même parfois fermer la bouche. Vous voyez, il y avait toute l'idée de ne pas pouvoir révéler ce qu'on avait vécu. Eh bien, ce mot, quand le christianisme commence à émerger, va être adopté par les chrétiens de manière assez prudente, justement, parce qu'ils sentent qu'il y a quelque chose qui pouvait les compromettre avec ces rites païens. Mais le premier à employer, le champion de l'emploi de ce mot mystère, mysterion, est saint Paul. Si vous avez une concordance de la Bible et vous cherchez le mot mystère, ou en grec mysterion, vous voyez qu'il emploie plusieurs dizaines de fois. Mais il emploie de manière très différente. Autant ses contemporains et ceux qu'il avait devancés l'employaient pour dire c'est un message, une expérience qu'il ne faut pas révéler, Saint Paul arrive à dire, je paraphrase l'une de ses lettres, de ses écrits, et il dit ceci à peu près, le mystère qui avait été caché pendant des siècles par Dieu nous est maintenant révélé par le Christ. Donc il y a ce jeu entre mystère caché, donc on a le fondement du mot, et nous est révélé. Donc il y a l'idée que il ne peut pas y avoir en Dieu un mystère qui est caché, mais qu'il doit être révélé, et que le Christ qui s'est manifesté et qui s'est incarné, le Verbe de Dieu qui s'est incarné, révèle ce mystère. Hein? Donc du coup, et il dit même, et ce mystère, nous vous l'annonçons. Donc il y a la volonté de annoncer ce qui était caché. Eh bien, le mot en tant que tel va. Là, nous sommes dans l'espace, dans la dynamique de l'annonce de la foi, mais le mot en tant que tel va aussi être employé, notamment à partir du 4e siècle, pour dire les gestes rituels propres aux chrétiens. Par exemple, le baptême sera appelé mystère. où l'Eucharistie sera appelée mystère au pluriel, les mystères. Vous voyez donc, c'est les mystères, si vous voulez, de la Pâque du Christ. Donc le mot va être employé, utilisé pour parler des premiers gestes. Je me limite à ça parce que vous le comprenez, nous le verrons. Au début du christianisme, il n'y avait pas tous les sept sacrements tels que nous les avons nommés tout à l'heure. Il y avait juste le baptême, l'Eucharistie. Peu à peu est sortie la confirmation ou l'onction sur le baptisé. Mais l'autre mot, nous sommes dans le monde grec, et lorsque il faut traduire la Bible, la Septante, donc la traduction de...